France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Francis Curdjian, créateur de parfums.
Premier épisode, donner forme à des parfums. Bonjour Francis Curdjian.
Bonjour Caroline.
Vous êtes un parfumeur ou un créateur de parfums, un compositeur de parfums, iconoclaste en tout cas. Créateur de parfums parmi les plus vendus au monde. On peut citer Le Mal de Jean-Paul Gaultier, on peut citer le parfum Baccarat Rouge 540 qui est devenu culte, on peut en citer beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre maison, éponyme, et vous dirigez la création des parfums pour la maison Dior. Vous avez composé un univers olfactif singulier, fait de bulles de savon, de brumisateurs, de neige artificielle, de fontaines, de murs d'eau. Car vous avez toujours voulu et vu le parfum comme une discipline artistique, ce qui vous a conduit à dialoguer avec de nombreux artistes pour sortir le parfum du flacon. La première de ces artistes, ça a été Sophie Kahl, qui vous a demandé de créer un parfum qui aurait l'odeur de l'argent. Mais ensuite, vous avez élargi votre palette et tout en fabriquant des parfums, vous avez initié des performances olfactives, autrement dit, des événements artistiques spectaculaires, avec cette idée, ancrée en vous, que chaque création est une histoire à raconter. Comme le Palais de Tokyo, et on peut peut-être déjà commencer à l'entendre, à Paris, célèbre en cet automne 2025 vos 30 ans de création, Francis Curdjian, de conversations, de collaborations artistiques. Une fois n'est pas coutume, pour entrer dans votre univers, je voulais vous proposer et proposer à nos auditeurs et nos auditrices une visite guidée en votre compagnie. Donc merci de nous accueillir ici au Palais de Tokyo.
Merci Caroline.
Déjà, première question, parce que c'est quand même pas anodin, le parfum entre au musée. Penser une exposition dans un musée avec du parfum, ça paraît presque contradictoire. Pas pour vous?
Non, ce n'est pas contradictoire pour moi. Je pense que c'est une forme de suite logique. En arrivant ce matin à nouveau, je me suis posté devant l'affiche. En me demandant ce que ça me faisait, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, qu'est-ce que ça vous fait que le parfum, ou que vous soyez comme ça dans cet espace du Palais de Tokyo. Ça peut paraître très prétentieux, mais j'ai l'impression que c'est normal. C'est normal non pas que ça soit moi, mais c'est normal qu'au 21e siècle, et dans ce quart de siècle qui se tourne et qui s'ouvre, c'est normal pour moi que le parfum rentre enfin au musée. Et ça aurait été un autre parfumeur que je m'en serais réjoui tout autant. Ce qui m'inquiète presque plus, c'est que j'ai pas la sensation que d'autres parfumeurs qui ont sensiblement le même parcours que moi ne s'emparent pas du projet ou du sujet. Ça m'inquiète un peu plus. Comme si d'être seul m'inquiète un petit peu, parce que parfois on est seul sur une voie de garage. Et j'aimerais beaucoup que cette rétrospective et que tous ces projets et tous ces parfums suscitent des vocations, j'avoue. Donc pour moi, c'est normal, parce que le parfum, je pense que le parfum, ça remplit nos vies. On le voit de plus en plus, notamment avec la jeune génération qui s'est emparée sur les réseaux sociaux du parfum. Et je me dis, oui, il était temps quand même.
Quand je dis contradictoire, c'est pas que le parfum n'a pas sa place au musée. C'est que le parfum, c'est de l'invisible. Et donc, quand on entre dans un musée, souvent, c'est pour voir des choses, parfois entendre des choses, mais alors sentir des choses, ça me paraît plus compliqué. Et pour vous, non, puisque vous avez passé votre vie, Francis Curdjian, à créer, et c'est bien pour ça que le titre de l'exposition, c'est « Sculpture de l'invisible ».
Oui, mais la musique qu'on entend sans doute en fond est tout aussi invisible que le parfum. Et pourtant, il y a des expositions, on va écouter de la musique dans des endroits clos, vides. Et pour moi, il y a un parallèle évident, un des parallèles évidents entre la musique et le parfum, c'est cette invisibilité-là. C'est aussi l'écriture, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la salle qui est réservée à la musique dans l'exposition, c'est qu'on a mis en parallèle une formule de parfum avec la partition de musique qui correspond aux images que l'on voit. Et je trouve ça intéressant de montrer aux visiteurs que la musique est un langage, mais que le parfum est aussi un langage. Alors bien sûr, il y a plus de personnes qui lisent les notes de musique que de personnes qui savent déchiffrer une formule. Mais en même temps, c'est pareil. Moi, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir des parents qui m'ont donné accès aux arts quand j'étais jeune, qui m'ont donc donné accès à la lecture de la musique à travers le solfège. Et quand je vois une partition de musique et quand je vois une partition de parfum, mais une formule de parfum, Ben, ça résonne de la même manière pour moi, en fait. Il n'y a aucune différence.
Et de toute façon, cette exposition, elle marque bien, elle consacre d'une certaine façon la dimension artistique de votre démarche. Et c'est une expérience qui est de tous les sens. C'est-à-dire que c'est une expérience visuelle, c'est une expérience sonore, c'est une expérience sensorielle. On va sentir, on va toucher. C'est tous les sens. À commencer par cette première salle où on est. Sculpture de rose et odeur de rose. Mais j'aimerais mieux que vous nous présentiez, parce que c'est...
Alors,
vous qui
c'est un projet à... Double lecture, un projet duel. C'est un hommage à la fois à la rose et à la céramique. Pourquoi ce double hommage ? Parce que ce sont deux objets, deux produits, deux savoir-faire qui viennent de Chine, qui sont nés en Chine et qui sont venus à travers la route de la soie, qui sont venus jusqu'en Europe et notamment en France. Donc en fait, cette ligne de rose, un peu déconstruite, hein, elle représente deux choses. C'est une allégorie à la fois... aux lignes de roses que l'on a dans les cultures de roses, notamment à Grasse. Alors, il leur faudrait en mettre deux pour qu'on puisse être entre les deux, mais sur une seule, on retrouve cette évocation. C'est aussi cette ligne qui évoque un peu l'idée de la route de la soie, ce cheminement de la fleur. Et c'est également de manière, dans une lecture verticale. Au sol, on a du kaolin qui vient donc de cette ville emblématique chinoise qui s'appelle Xinjiang, qui est la capitale mondiale de la céramique, de la porcelaine. C'est là où est né le savoir-faire autour de la porcelaine. Les cuissons et les savoir-faire, j'y suis allé encore il y a quelques mois visiter l'atelier de l'artiste chinois avec lequel nous avons travaillé pour cette exposition également. Et c'est vrai que j'y ai retrouvé là-bas ce que j'ai découvert moi il y a presque 20 ans à Sèvres, avec les moules, les peintures, les savoir-faire, les tours de main. Toutes, c'est exactement les mêmes à l'identique. On a juste nous fait cela à partir du XVIIe siècle, alors que la Chine, elle a ses millénaires, et je voulais un peu rendre hommage dans ce dialogue des cultures. Trop souvent, moi je viens d'une époque où on a un peu occulté ce qui se passait ailleurs, très centré sur la France, sur l'Europe, notamment en parfumerie. On pense souvent que la parfumerie est née en France. La parfumerie, elle n'est pas née qu'en France, elle est née en France d'une certaine manière, mais elle vient aussi d'Inde, elle vient de Chine, elle vient du Moyen-Orient, d'Arabie. Et je trouvais ça intéressant d'aller retourner en Chine, au centre névralgique de cette création, qui est quand même fabuleuse, parce qu'on doit, quand même, à travers la céramique, des émotions particulières. Et celle-ci, elle est d'autant plus particulière que c'est une céramique poreuse, un biscuit poreux, c'est-à-dire un biscuit qui permet d'absorber du parfum. Puisque normalement, quand on cuit le kaolin et les composants qui forment cette fameuse pâte, au-delà de 1100-1200 degrés, ça se fige, ça se cristallise, donc on ne peut plus rien faire. Enfin, on ne peut que l'admirer, mais on ne peut pas du tout appliquer de parfum. Le parfum reste en surface. Et là
la pièce
embaume. Et les pétales sont parfumés. Donc
on s'approche pour sentir.
S'approcher pour sentir délicatement.
Ça sent vraiment la rose.
Et ça sent une composition embaume. Rose, dont j'ai affiché également la formule au mur pour que les visiteurs puissent appréhender ce qu'est une formule qui sent la rose, tout en sachant qu'il n'y a pas de rose dedans. C'est-à-dire que quand vous lisez la formule, il n'y a pas écrit le mot rose. Il y a écrit le mot géranium, il y a écrit plein de choses. C'est une formule qui fait à peu près 25 composants. Il n'y a pas le mot rose. Pourquoi il n'y a pas le mot rose ? Parce qu'il y avait une idée de, non pas d'économie, mais pas loin. C'est-à-dire que les absolus roses, les extraits de rose coûtent plus de 10 à 15 000 euros du kilo. Et finalement, en composant la note, je n'avais pas de nécessité à mettre de la vraie rose dans ce parfum, qui est un parfum qui parfume un peu l'ambiance, vous voyez.
C'est extraordinaire cette salle qui nous accueille, parce que pas tout, mais beaucoup de choses de vous est là. Dans ce que vous nous avez dit, le rapport, on l'entend déjà, le rapport au parfum, le rapport à l'art, le rapport même à la création chimique. Allez, on continue.
On continue,
on est bienvenue dans l'univers de Francis Kurkdjian. On entre dans l'histoire aussi, on entre dans le temps, c'est un rapport au temps, votre travail. Et on est déjà, on recule hein, dans l'histoire. On va entrer dans l'univers de Versailles, qui était un moment extrêmement important pour vous. On va descendre quelques marches. On est accueilli par des rideaux de velours rouge
et de la belle musique de
et
Lully.
La musique de Lully. On passe cette salle pour pouvoir faire en sorte de s'entendre, et vous allez nous expliquer. Et nous raconter comment vous avez d'abord pensé votre rapport à Versailles et ses salles ensuite au Palais de Tokyo. C'est une longue histoire, votre histoire avec Versailles déjà, et c'est une longue histoire de la parfumerie avec Versailles.
Alors, j'ai une double histoire à Versailles. J'ai une histoire de danseur Et j'ai une histoire de parfumeur. Et les deux se sont entremêlés à un moment donné. En 90, quand je suis allé étudier la parfumerie à Versailles, puisque c'est à Versailles que, à mon époque, existait la seule école au monde pour apprendre les métiers autour du parfum. Il n'y avait pas d'autre école et de formation au monde. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, c'est autre chose. Il y a d'autres écoles qui se sont ouvertes à la fois en France et également quelques formations dans le monde. Mais à l'époque, c'était la seule école qui accueillait tous les ans entre 15 et 20 élèves, pas plus que ça.
Donc déjà un rapport d'études, puisque c'était l'ICIPCA, la prestigieuse école de parfumerie, était à Versailles.
Exactement.
Vous avez dansé, comme vous disiez.
Donc j'arrive à Versailles, à la fois il faut que je commence à l'école de parfumerie et il faut que je continue à danser absolument, puisque il y a cette opportunité dans la compagnie dans laquelle j'étais en banlieue parisienne de faire les premières des spectacles du Bolshoï qui étaient en tournée à Paris. Et qu'il a fallu absolument que je me maintienne en forme. Donc il fallait coûte que je trouve une école de danse sur Versailles qui m'accepte. Accepte un garçon de 20 ans, c'est pas évident. Déjà à l'époque, les garçons, c'était pas évident, mais un garçon de 20 ans, encore moins évident. Et je suis tombé sur une compagnie qui m'a ouvert les bras complètement. Compagnie Versailles Soleil. J'avais un plutôt bon niveau, donc ils étaient quand même très contents de m'accueillir. Ils m'ont formé à la danse baroque. Et en me formant à la danse baroque, j'ai pu évoluer à Versailles comme danseur qui incarnait notamment Louis XIV.
Ça, c'était la première partie de notre vie, Francis Kurgian. La deuxième est plutôt comme compositeur de parfums. Oui. En 2005, vous composez un parfum inspiré de documents d'époque en hommage à Marie-Antoinette, le sillage de la reine, dont on reparlera. Et puis en 2006, dans le cadre de Versailles Off, un festival sous le commissariat de Laurent Lebon, vous concevez Soleil de minuit avec des effluves de fleurs d'oranger, qu'on a un peu plus loin dans l'exposition, me semble-t-il, ces effluves.
Sur la gauche.
Dans la salle suivante. Ça veut dire que le visiteur et la visiteuse que je suis s'approche d'un petit cadran grillagé et que l'odeur de fleurs d'oranger se diffuse. Mais je voulais que vous nous parliez de la salle qu'on a quittée avec cette musique de Lully.
Alors, la musique de Lully, cette salle, c'est la salle où on a une représentation d'une installation olfactive qui date de 2007-2008, qui s'appelle Le Roi Danse. J'ai dansé dans ce bosquet de la salle de bal à Versailles, qui est un bosquet qui se situe en bas du parterre de la Tonne, sur la gauche. Et quand on faisait notamment les premières pour la presse et qu'on expliquait à la presse les spectacles et des fêtes de nuit à Versailles, c'est dans ce bosquet, en pleine journée, que je dansais, presque au même endroit où Louis XIV dansait devant la cour. Et quand Versailles me donne un peu les clés de certains bosquets pour aller m'amuser, parce que vraiment c'était de l'amusement, parce que c'était presque, comment pourrais-je le dire, je prenais pas la mesure de ce qui se passait. C'était une chance qui m'était offerte d'exprimer le parfum autrement. J'avais déjà un rapport à l'art, évidemment, mais c'est plus comme une forme d'amusement. Et si on ? Et c'est ce que j'ai aimé dans ma relation avec Versailles à chaque fois, c'était mettre en valeur les lieux et leur faire raconter des histoires. Ça me plaît beaucoup.
Donc, Soleil de minuit.
Donc, Soleil de minuit.
En 2006,
exactement.
Suivi. Alors, d'abord, là, on est devant une petite vidéo également, oui, qui représente l'installation olfactive et lumineuse, oui, au bassin de l'orangerie.
C'est la mise en place, un des multiples essais que j'ai pu faire, puisque on ne savait plus faire. Il n'y a plus la recette de comment parfumer les eaux du château de Versailles. On explique plein de choses. Hein. J'ai trouvé des livres qui expliquent comment faire du cuir parfumé pour faire des gants parfumés. J'ai trouvé des recettes pour...
On les voit d'ailleurs, les gants parfumés.
Blanchir le teint des belles. Voilà, c'est un compendium qui fait près de 600 pages où tout est expliqué. Je n'avais rien trouvé si ce n'est qu'une citation. C'était dans Les plaisirs de l'île enchantée où on parle du bassin parfumé et des fêtes de nuit où les bassins étaient parfumés, donc il a fallu retravailler. Donc dans le laboratoire où je travaillais, je me suis associé à des chimistes qui m'ont expliqué la solubilité du parfum dans l'eau, sachant que les parfums ne sont pas par nature solubles dans l'eau, donc il a fallu que je fasse une sélection d'ingrédients. Il y avait une petite recherche quand même scientifique à faire derrière. Et là,
et vous avez réussi à
on y est arrivé.
On y est arrivé
à tel point que c'est le bassin qui est en contrebas, le bassin de l'orangerie est en contrebas du château, et des grilles du château sur la place d'armes ont les trois soirs, on a fait, on a parfumé ce bassin, on percevait l'odeur depuis les grilles du château de Versailles. C'était assez fabuleux.
Alors, vous vous êtes amusé, Francis Curigian, avec des bassins parfumés, mais aussi avec des bulles de savon, des chutes d'eau et dans ces années-là, 2007-2008. Mais je prends la balle au bon puisque vous avez parlé d'eau, justement, et d'eau parfumée, parce que vous avez poussé le bouchon un peu plus loin, si vous me permettez cette trivialité, en créant une eau qu'on peut boire et
tout
qui est parfumée, l'or bleu, un peu plus tard en 2012,
quelques années avant, je rencontre à New York Yann Thomas, qui est un artiste français, conceptuel, un artiste performatif. Il ressemble à la vidéo, hein. Dans la vraie vie, Yann est exactement...
On a une vidéo où l'on voit Yann
est exactement
performé.
Dans la vraie vie, il est exactement la même coupe de cheveux. Alors, contrairement à moi qui porte une perruque dans la vidéo, Yann, dans la vraie vie, il est tel qu'il est sur la vidéo. Et c'est vrai qu'on se rencontre, comme ça, un ami commun nous fait rencontrer. Et puis, il me contacte quelques temps plus tard pour me parler d'un projet qu'il a en tête, qui est une commande de la part de la Fondation EDF, sur la thématique de l'eau, donc le parfum que j'ai composé.
L'or bleu. À boire. Et là, dans l'exposition, on peut la boire.
Tout à fait, on peut la boire. Si vous voulez, je vous sers un petit verre.
Je veux bien, parce que je n'ai pas
C'est une eau à base
de cet or bleu.
C'est une eau à base de gingembre. Alors, elle est dans un distributeur à eau, comme une fontaine à eau qu'on peut trouver dans les bureaux. Hein. Il y a cette idée un peu de gingembre, légèrement épicée.
Oui, gingembre.
Et surtout, on a rajouté, il y a un petit adjuvant qui donne l'impression qu'on a mis la langue sur une pile électrique.
Je ne mets pas souvent ma langue sur une pile électrique.
C'est très léger, mais si vous avez fait l'exercice, quand vous chargez des batteries, surtout les anciennes versions, ça tire un tout petit peu. C'est pas une acidité, c'est pas de l'amertume, c'est le muscle trilingual là, qui est titillé.
Par derrière.
Et qui donne cette idée d'un peu d'énergie électrique. Ce que j'aime beaucoup avec ce projet, c'est qu'on est dans une vision très surréaliste, très dadaïste. Il y a une référence dans l'exposition un peu plus loin sur Marcel Duchamp, bien évidemment, parce que c'est quand même fabuleux. C'est lui qui a quand même fait quelque part rentrer le parfum au musée, avec La Belle Haleine.
Qui est là aussi, quelque part.
Qui est au...
hein, parce que nous continuons à déambuler au palais de Tokyo, à Paris, avec vous, Francis Curigian. Et au mur, il y a des portraits picturaux qui vous ont peut-être inspiré, un Monet.
Le Monet est une commande de la RMN sur une transposition. La RMN m'a demandé de transposer ce fameux jardin en bougie. Donc ça a été un travail que j'ai fait en 2010 sur cette transposition, évocation de ce jardin impressionniste dans une bougie.
Et alors il faut dire à chaque fois qu'on avance et que des œuvres et des créations sont présentées, que ce soit des photographies, des vidéos, des tableaux, des sculptures, vous proposez des petites touches parfumées.
Exactement, qui ont été pré-parfumées cet été.
Bien évidemment,
ce sont donc les parfums.
Pour que les visiteurs et les visiteuses puissent sentir et ensuite les mettre dans un petit carnet et repartent avec.
Je souhaitais que le visiteur... Déjà, je souhaitais deux choses, que l'exposition soit gratuite. Ça, c'était pour moi très important. Et pour mon associé, pour Marc également. Nous souhaitions que l'exposition soit gratuite, ouverte au public, le plus large possible, puisque le parfum touche tout le monde. Et je voulais surtout que cette exposition parle au plus grand nombre possible, et surtout que quels souvenirs pouvions-nous garder de cette exposition et de cette aventure olfactive. Et c'est là où est venue cette idée de touches pré-parfumées que l'on peut insérer dans un petit cahier que l'on remet à chaque visiteur.
On a continué d'avancer tout en parlant, Francis Curigian. On ouvre un rideau de velours noir cette fois et on entre dans une salle musicale qui dit aussi tout votre rapport à la musique. Vous avez commencé d'en parler tout à l'heure en parlant aussi de la danse, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on voit là?
Alors là, nous voyons le premier mouvement de la trilogie Cocteau Philippe Glass qui a été jouée par Katia Marielle Labeck, la première ayant été donnée à la Philharmonie de Paris. Et c'est le morceau Orphée pour lequel j'ai composé un parfum. J'ai composé un parfum pour les trois actes, pour Orphée, pour La Belle et la Bête et Les Enfants Terribles. Et c'est mon ami et metteur en scène Cyril Test qui a créé la scénographie de ce quatre mains.
Qui est très présent, hein, Cyril Test, à la fois dans l'exposition et dans votre vie.
Hein. Tout à fait. Francis Cyril, c'est un compagnon de route, artistique, et pas que, parce que c'est devenu un véritable ami, et c'est important de trouver, et je suis très heureux d'avoir trouvé ma complicité avec lui, cette complicité avec lui, parce que c'est le, j'y dis souvent, c'est mon œil. Parce que j'ai beaucoup d'élasticité artistique, mais je n'ai pas tous les talents. Et c'était important pour moi de m'entourer aussi avec des personnalités qui sont capables d'être une forme de prolongement parfait ou dans une forme de quête de perfection et qui maîtrisent quelque chose que je ne sais pas faire, surtout.
Évidemment, dans cette exposition qui est très grande, on n'a pas pu parler de tout. Et il y a énormément de choses. D'ailleurs, là, on est devant une espèce de vitrine remplie de
une frise.
Une frise, voilà. Vous les pensez comme une frise, oui. Avec des flacons qui sont en porcelaine.
Oui, exactement.
De toutes les tailles, porcelaine de toutes fille, les formes qui sont extraordinaires.
Fabriquée en Chine, peinte à la main à partir d'un rouleau très précieux chinois. Et cet artiste, Wang Lia, travaille sur l'idée du passé et du présent. C'est assez singulier.
Qu'on retrouve quand même beaucoup, beaucoup oui. Chez vous. Et je dis, on n'a pas pu tout voir, bien évidemment. Par exemple, je pense à cette salle où vous racontez comment vous avez rencontré l'artiste Sophie Kahl et créé l'odeur de l'argent. Mais on n'oublie pas, on en reparlera, évidemment, Francis Kurkdjian. Je voudrais qu'on se dirige vers cette acmé qui est l'alchimie des sens.
Oui, et l'alchimie des sens, son nom... tout est dit. C'est
comment une œuvre polysensorielle totale.
Totale. Comment pouvons-nous mettre autour d'une table, autour d'un projet artistique, des talents qui sont devenus au fil de l'eau des amis. Donc, ce sont des amitiés artistiques qui, à la base, étaient des. Voilà, pour moi, c'était intouchable. Katia et Marielle Labeck qui vont célébrer quand même l'an prochain leurs 55 ans sur scène. Elles traversent le monde entier. Elles sont des ambassadrices de la France et de la musique en général, mais aussi beaucoup de la France, qui, et depuis 55 ans, elles écument les scènes du monde entier. Je les ai vues petits dans les émissions de Jacques Chancel. Tout d'un coup, vous partagez un repas avec elles, tout d'un coup, vous partagez des moments d'intimité, c'est fabuleux. David Chalmin, très grand jeune compositeur de musique électronique contemporain. Doit-on présenter Anne-Sophie Pic ? Je suis pas sûr.
La chef la plus voilà, étoilée la chef, du monde, on va dire.
La chef la plus étoilée du monde.
Et la Elias... seule en France à ce jour, en automne 2025.
Exactement. Et Elias Crespin, cet artiste vénézuélien, réfugié en France, et ce talent incroyable, dont une des œuvres est quand même exposée au Louvre. Donc pour un artiste contemporain, ce n'est pas une mince affaire.
Alors, avec tout ce bon monde, qu'avez-vous fait ?
Alors, avec tout ce bon monde et la Maison Baccarat, parce qu'au départ, c'est ce projet, c'est la création d'un nouveau flacon par la manufacture. Et pareil, que vous disiez que j'avais un rapport au passé très important. J'ai lancé le défi à la Maison Baccarat de renouveler le geste en faisant un flacon contemporain, en y associant et en déposant sur la frette du col du flacon un vaporisateur.
Mais donc vous avez créé un flacon qui est un flacon millésime, une édition millésime de Baccarat Rouge 540, votre parfum iconique, Francis Kurkdjian. Mais dans ce dialogue autour de ce parfum, vous avez donc fait travailler aussi vos amis artistes pour créer cette œuvre, imaginée encore avec le metteur en scène Cyril Test.
Tout à fait.
Où Anne-Sophie Pic a créé... un chocolat.
Et Anne-Sophie est venue avec ce qu'elle appelle ce bonbon de chocolat qu'on a appelé rouge chocolat et qui est une association assez singulière en termes de saveur.
Tout ce que vous créez, Francis Kurkdjian, la façon dont vous concevez vos parfums, c'est aussi, pour vous en tout cas, un art de créer des émotions et un art d'occuper l'espace. Alors occuper l'espace, on le voit bien, en particulier on va traverser l'espace que vous avez créé avec cette édition limitée du parfum rouge Baccarat.
On peut goûter le chocolat avant.
On peut goûter le chocolat
goûter
avant.
Le chocolat avant parce qu'il est légèrement croquant, il a une forme très singulière. Il reprend l'idée pour
des
Anne-Sophie.
Des petits bâtonnets de chocolat présentés sur des feuilles d'or presque.
Exactement, et il reprend l'idée de la touche à parfum.
Le croque.
Vous pouvez croquer.
Safran, tagette.
Safran, tagette passion. Et un petit peu de piment,
oui,
de piment doux.
Légèrement épicé. Donc on traverse une espèce de grande salle carrée dans les tons de rouge.
Alors ça reprend la forme. En fait, c'est une vue du dessus, ça reprend
du
la
parfum.
Forme du flacon.
Ouais, du flacon.
Tout à fait.
Du flacon. Et on peut la traverser ?
Allez-y, je vous en prie.
Et l'édition de ce parfum est en son cœur, en son centre. la musique qu'on entend de David Chalma.
Tout à fait.
Jouée par les Sœurs Labeck.
Alors, une partition musicale très singulière. Une composition musicale de David Chalma qui va mixer sur cette musique électronique plusieurs sources sonores. L'une d'elles, c'est l'odeur des cachalots sous l'eau. Ce sont des enregistrements que nous avons récupérés via l'association Longitude 180 que nous finançons, que nous soutenons depuis maintenant 5 ans. Longitude 180, c'est une fondation qui œuvre à la préservation des cachalots, notamment en Méditerranée, dans la région de Porquerolles. Et j'y vais tous les ans faire à peu près 4-5 jours une excursion avec eux pour aller au cœur même de leur activité, parce que j'aime beaucoup. J'ai eu de la chance de faire de la voile. Alors, c'est pas de la voile, c'est un gros catamaran, mais c'est toujours intéressant d'être au contact des gens que vous soutenez, parce que vous comprenez aussi leur quotidien et leurs problématiques. Et il y a beaucoup de problématiques en Méditerranée sur la sauvegarde de la faune marine. Donc, il mixait des sons de cachalot, il a mixé des sons qu'il a enregistrés chez Baccarat, lors de la création du façonnage du flacon de parfum. Bien évidemment, Katia et Marielle Labeck au piano, qui me font cet honneur de cette création.
Et c'est un peu le point d'orgue de cette exposition, qui se termine néanmoins, non pas là, mais dans une sorte de vaste bureau recomposé,
oui.
Là aussi. C'est votre bureau, c'est l'un
c'est
de
mon
vos bureaux.
C'est mon précédent bureau. Entre
reconfiguré.
Temps, entre le projet de l'exposition et aujourd'hui, il s'est passé 14 mois.
Et vous avez déménagé.
Nous avons déménagé et il a fallu que je réinvente mon bureau.
Donc avant, votre bureau ressemblait à ça.
Mon bureau
avec
était
un lustre.
Une rotonde avec 4 mètres de hauteur sur le plafond, un lustre Baccarat. Et Jérôme Neutre, qui est le commissaire de l'exposition, a vraiment souhaité que le bureau soit le point d'orgue de cette déambulation olfactive pour que les gens puissent se dire. Voilà, c'est dans cet environnement-là, parce que mon bureau actuel, il n'est plus aussi grand, mais
vous
le verrez demain, il a cette texture un petit peu qu'on retrouve.
Mais il y a quand même votre univers,
oui,
ici,
des artistes
dans ce
que
bureau.
J'aime, qui vivent
voilà,
avec
on
moi.
On en parlera dans l'épisode 2.
J'ai transposé des choses que
des choses que vous aimez, absolument.
Et puis un travail qui n'était pas annoncé au début, qui est venu au long cours, qui est un travail avec Sophie Kahl, ce que j'ai appelé Variation pour Sophie, qui est une œuvre performative.
Pour créer le parfum de Sophie à partir de...
À partir de tous ses choix. C'est créer le parfum de Sophie à partir de tous les parfums que Sophie a aimés. Elle porte des parfums qui sont dans, un peu dans une même veine.
Ah oui, donc c'est possible, parce que sinon ça...
Non, sinon ça j'aurais pas proposé. Et elle m'a dit, mais si vous me faisiez... Je sais plus comment elle a dit. Non, c'est moi qui lui ai dit, Sophie, je crois que j'ai trouvé le projet que j'avais à faire parce que je viens travailler au bureau.
Ici, vous venez travailler.
Je viens travailler
ici,
deux à trois fois par semaine, exactement.
Vous vous installez au bureau.
Je m'installe au bureau, j'ai
et
mon sac, j'arrive
vous voir.
Et les visiteurs viennent me voir et je converse.
Vous parlez.
Ah, si, on parle, on échange. On échange.
On va vous laisser vous installer à votre bureau, mais on vous retrouve dans le vrai bureau pour l'épisode suivant. Francis Kurger,
merci
beaucoup de nous avoir fait pénétrer cet univers qui est le vôtre dans l'exposition au Palais de Tokyo qui vous est consacrée. Rare, donc peut-être même première exposition consacrée à un compositeur de parfums. Et rendez-vous demain pour l'épisode 2, la petite boutique du parfumeur. Merci.
Merci Karine, à demain.
À demain. C'était À Voix Nue avec Francis Kurkdjian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Loïc Duros et Julien Girard, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.